Regardez vos montres et vos breloques, il est forcément 20h. Bien le bonjour et bien le bonsoir, c'est Quasar on the air, l'émission de Quasar, le centre lesbien, gay, bi, trans, intersexe, plus, parce qu'il y a toujours un plus, d'Angers et du Maine-et-Loire, basé 15 rue de Jérusalem. J'espère que vous êtes en super forme en ce jeudi soir. On vous retrouve pour un 12e numéro de la saison 2021-2022 avec plein d'invités en présentiel, au téléphone, comme chaque semaine. Une semaine qui a été, ou les 15 derniers jours qui ont été riches en décisions législatives, l'élargissement de l'adoption. Et c'est justement sur cette thématique-là que nous allons tout à l'heure, plus large, hein, la filiation, l'adoption et aussi la PMA, que nous allons accueillir Héloïne Fouillou, qui est la porte-parole des enfants d'arc-en-ciel. Auparavant, nous allons évoquer la mémoire de David Stewart, activiste anglais, décédé en janvier dernier. Il était particulièrement actif dans le domaine du chemsex, et nous aurons un invité, Stéphane Verne de Aide. Et puis des invités qui sont là tout tremblants, mais on va les laisser trembler encore, c'est Catel et Alex qui vont venir nous parler dans quelques instants de ce que vous devez peut-être aussi un peu connaître maintenant, puisqu'on vous en a parlé un petit peu sur cette antenne, mais c'est bien aussi d'y revenir. Ce point, c'est le pôle 15-25 ans. Mais comme traditionnellement, on ouvre l'émission avec l'agenda de février 2022. Et sur cet agenda, on a coché plein de cases. Alors on vous propose de les découvrir et de les commenter tout à l'heure. Donc, chaque samedi, alors les 19 et 26 février en tout cas, et puis ça continuera en mars, c'est la permanence de Quasar de 17h à 19h au 15 rue de Jérusalem, près du cimetière de l'Est, entre le boulevard des Deux Croix, très en travaux, et l'avenue Pasteur. Le mardi 15 février à 18h, c'est la réunion du conseil d'administration qui va décider plein de choses pour l'avenir de l'asso. Mercredi 16 février, c'est la réunion à 18h du pôle droit des étrangers et des étrangères. Le samedi 19, effectivement, il y aura la permanence à 17h, mais avant, attention au coup de canon, à 14h, la réunion du pôle 15-25 ans, à 15h, la réunion Transat, le groupe de parole par et pour les personnes transgenres, agenres et non-binaires. Et puis on fait aussi une salutation chaleureuse à nos amis de Contact 49 qui tiennent, eux, leur assemblée générale à 18h dans leurs locaux. Toujours le samedi 19, une date très chargée, à 19h, ce sera le loto, un loto spécial à l'entre-deux, animé par Ladies Gust, au bénéfice de Quasar. Si vous voulez aller jouer, vous détendre, boire un coup, voir du monde, rendez-vous à l'entre-deux le 19 février, 19h. Le jeudi 24 février à 20h, on se retrouvera ici même sur ces ondes 101.5. Ce sera un nouvel numéro de Quasar on the air. Et puis enfin, sachez-le, ce sera exactement le samedi 26 février à partir de 14h, une après-midi spéciale droit des étrangers avec la diffusion du fameux documentaire de Quasar, Enfants de malheur. C'est leur première, alors ils sont tout attentifs, ils sont là. Bonjour Catel.
Bonjour.
Et bonjour Alex.
Bonjour.
Alors vous êtes, vous, des quasariens et quasariennes, tout nouveau, tout frais, tout neuf, et vous venez nous parler du pôle 15-25 ans. Alors c'est quoi ce pôle 15-25 ans? Le nom indique un peu les choses, mais précisez un peu s'il vous plaît.
Alors moi du coup j'avais pour envie depuis déjà quelques années d'être plus active en fait dans la cause LGBT qui en plus de me tenir à cœur me concerne. Donc j'avais contacté l'association Quasar pour savoir qu'est-ce qu'il en était de ce pôle, parce qu'à ce moment-là je savais pas encore qu'il était plus du tout actif. Et du coup j'avais envoyé un mail pour me renseigner, puis s'en est suivi des réunions des réunions entre jeunes pour qui étaient aussi intéressés par ce pôle, pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait organiser ensemble entre personnes du même âge, toute identité confondue. Mmh. Voilà, et c'était des réunions très constructives qui nous ont permis de pouvoir réfléchir à ce qu'on pourrait mettre en place, notamment des idées, une idée de permanence qui pourrait par exemple être installée pour permettre à des jeunes par exemple isolés ou mal dans leur peau ou qui rencontrent des difficultés dues à l'acceptation de leur sexualité, des difficultés dans leur entourage, à venir parler à d'autres personnes qui ont leur âge, qui ont pu vivre des choses pas identiques mais similaires dans les discriminations, quoi.
C'est ça. Alors, on va y revenir, mais auparavant, est-ce que toi, tu avais déjà une expérience associative ? Est-ce que tu t'y étais frotté sur cette thématique-là, ou spécialement ou une autre ?
Alors, oui. Après, j'ai d'autres expériences dans l'associatif, mais c'est des causes extrêmement différentes. D'accord. Qui me tiennent aussi à cœur, notamment dans la protection animale. Mm-hmm. Donc, c'était quelque chose que j'avais pu faire pendant l'été, par exemple. Mais c'est vrai que militer pour la cause LGBT, c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, en fait, notamment quand j'étais encore en Bretagne, mais dont j'étais peut-être aussi intimidée, j'étais peut-être non plus pas forcément encore à l'aise avec moi-même, et du coup, voilà, le fait de s'engager, c'était pas forcément la première chose qui me venait à l'esprit.
Et tu t'es jetée dans le bain. Et toi, tu fais quoi actuellement, toi ?
Alors moi, du coup, je suis venue à Angers pour des études de psychologie, donc je suis là pendant ma deuxième année, et j'envisage du coup de devenir psychologue. Et après voilà, j'ai d'autres passions dans la vie, comme le hip-hop par exemple, qui prend
faudrait qu'on en reparle alors. Tu nous feras une de programmation.
Avec plaisir.
Et toi Alex, alors toi tu fais quoi là sur Angers très exactement actuellement?
Donc moi je suis arrivé sur Angers dans l'objectif de faire mon CAP petite enfance, ce qui est le cas actuellement.
D'accord. Alors quand tu dis petite enfance, c'est-à-dire travailler dans les structures dédiées à la petite enfance, c'est ça ?
Voilà, exactement, dans les crèches ou écoles.
D'accord, ok. Et donc toi c'est ça. Et alors tu nous as connus comment toi, où tu étais avant ?
Donc moi avant j'étais de l'association Luciole, qui est l'association LGBT qui concerne les universités d'Angers.
Oui.
Et donc j'ai connu Quasar à l'événement Souvenir Trans en novembre 2021.
Oui, c'est vrai qu'on s'est croisés là, moi je me souviens bien. Me souviens bien d'un Alex qui vient m'interpeller à la fin de la réunion en disant « qu'est-ce que je peux faire ?»
Voilà.
Et de fil en aiguille, on en arrivait à ce stade. D'accord. Et alors, est-ce que tu peux nous dire, toi, ce qui s'est passé déjà pour parler de ce 15-25, étant entendu que Catel a raison, l'activité du 15-25 avait été complètement stoppée à cause, vous le devinez certainement, de la crise Covid qui ne rendait plus possible les conviviales et que tout le monde était cloîtré chez soi. Et là, donc, on redémarre. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé comme réunion ? Comment tu as vécu ces réunions et qu'est-ce qui s'est décidé finalement ?
Alors il est vrai que moi après j'ai toujours été engagé, très engagé sur les sujets LGBT. Et c'est vrai que la crise de Covid a un peu stoppé net à beaucoup de choses. Et par la suite on se sent de nouveau envie de vraiment faire changer un peu le monde qui nous entoure. Et c'est pourquoi j'ai voulu me lancer, surtout que j'avais aussi également plus de temps libre. Et ça a été vraiment l'occasion pour moi de me confirmer, de m'affirmer un peu dans mes choix de combat de vie un peu.
Il y a une chose que je remarque chez vous, les uns et les unes, alors vous n'êtes pas que deux, fort heureusement, mais j'ai l'impression que ça vous sert aussi de moment d'une forme d'affirmation personnelle, c'est-à-dire que vous avez des craintes, vous les exprimez, parce que dans votre génération, c'est plus facile à verbaliser ou tout du moins à faire comprendre, vous avez peut-être plus les mots pour le dire et nous le dire, et en même temps, tout en ayant ces craintes, c'est cette non-expérience, vous vous lancez puis vous y allez. Ça vous parle quand je vous dis ça ? Vous vous reconnaissez ou pas du tout ?
ben moi je me reconnais pas mal, parce que c'est vrai que en l'absence de, enfin moi je suis venue aussi à Quasar pour avoir des personnes qui me ressemblaient en fait autour de moi, que ce soit des personnes de mon âge mais aussi des personnes moins jeunes, parce que ça me paraissait important aussi de voir que ah ben ouais c'est possible en fait de vivre comme on est et de mener sa vie, d'être heureux, etc. Ça c'est mine de rien, c'est quelque chose qu'on n'intériorise pas forcément en fait quand on se découvre, et l'associatif, le fait de se retrouver comme ça ensemble, ça aide énormément au niveau de soi-même, et voilà, surtout qu'on n'est pas forcément non plus out auprès de tout notre entourage, et le fait d'être soi-même, c'est quelque chose quand même qui n'est pas négligeable, quoi.
Tu dirais la même chose, Alex, toi, pour toi, le ressenti ?
Oui, tout à fait. De par nos différences, c'est des sujets auxquels on va être déjà sensibilisés. Et ensuite, le fait de s'engager, d'ajouter un peu notre pierre à l'édifice, je trouve ça vraiment, vraiment beau, quoi.
Oui, ça fait participer, et puis vous construisez avec d'autres, quoi. Alors, c'est vrai que pour l'instant, à Quasar, on a un gros fonctionnement, mais qui reste extrêmement cloisonné du fait quand même de la continuité de la contamination possible. On n'a pas de conviviale reprise, ça c'est bien, bien dommage. Mais bon, on préfère sacrifier peut-être ces temps-là et en ouvrir d'autres avec masque et avec protection, mais pouvoir se revoir. Donc là, vous n'avez pas vu encore d'autres groupes comme les demandeurs d'asile et les demandeuses d'asile, mais effectivement, ça sera bien un moment que vous puissiez comprendre aussi ce qu'ils vivent, comment ils le vivent, qu'ils vous l'expriment et que vous vous exprimiez en retour ce que vous bâtissez, comment vous souhaitez faire avancer les choses. Alors, quelles sont les valeurs d'après toi, là, que le Alex, que le pôle 15-25 ans devra porter et devra particulièrement veiller à mettre en avant et à pratiquer?
Alors déjà, je dirais que c'est un espace entièrement safe, où chacun est libre d'être lui-même et sans aucun jugement. On va aller vers les personnes, les aider un peu dans leurs problèmes. Et quelles que soient vos différences, Quasar fera de votre mieux pour vous aider, en fait.
Voilà, c'est ça. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans les préparatifs qui sont en train de se mettre en place, alors je pose les questions, mais j'ai les réponses, hein, mais c'est quand même pour ceux qui nous entendent, quel était votre désir de base et comment est-ce qu'on peut accueillir et comment est-ce que vous avez pensé la chose de l'accueil à Quasar pour les 15-25 ?
Alors du coup, il y avait plusieurs choses qui avaient été réfléchies, notamment les permanences, comme je disais tout à l'heure, où ce seraient des espaces, enfin des temps plutôt réservés à qui veut venir, par exemple plutôt collectif dans ce cas-là, mais ça peut aussi être, on avait pensé à des rendez-vous individuels par exemple, où on pourrait accueillir des personnes, des jeunes notamment, qui voudraient rien que parler en fait à quelqu'un sans crainte d'être jugé, moqué, discriminé, parce que c'est pas forcément garanti en fait dans leurs espaces quotidiens à elles, et du coup voilà, c'est garantir cet espace, comme disait Alex, safe, où on est sûr de pouvoir pas forcément avoir toutes les réponses, mais avoir une écoute bienveillante.
Et vous avez conscience que même si vous n'avez pas toutes les solutions, les réponses, et que ça peut se construire au fur et à mesure, déjà, ne serait-ce que de savoir pour les autres jeunes qu'il y a d'autres jeunes qui peuvent les recevoir et les écouter, c'est un point excessivement important.
C'est ça, et de savoir qu'on n'est pas seul, qu'il existe des ressources, et ça, ouais, c'est super important.
Le fait de pouvoir rencontrer ce qu'on appelle des pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire des gens identiques, qui n'ont pas évidemment vécu la même vie ou qui ne vivent pas la même vie, mais qui ont des points communs et qui peuvent effectivement, de par leur expérience, apporter une aide. Et puis parfois, l'aide, c'est juste d'être présent. C'est assez fort, ça, hein, quand on le remarque. Alors, toi, Alex, l'expérience d'accueil que tu as avec le collectif Luciole, c'est sur quelle thématique, par exemple ?
Alors, nous, les thématiques du collectif Luciole, déjà, ça va être de rassembler également les personnes qui vont se sentir bien ensemble, en fait, et avec des points communs. Et derrière, ça va être de sensibiliser les étudiants aux questions LGBT ou encore les avancées actuelles. Et puis, de faire avancer les choses en fait au sein des universités, que ce soit l'ouverture d'esprit des gens ou encore...
Qu'est-ce qui a avancé par exemple à l'université d'Angers? Tu peux nous citer un exemple très parlant sur l'identité de genre par exemple?
Oui, je sais qu'il y avait eu des toilettes, la mise en place en tout cas des toilettes non-binaires, donc ce qu'on
c'est
avait
ça.
Fait part.
Ouais. Mixte, en fait, non-genrée, pour que les personnes non-binaires se sentent à l'aise. Il y a aussi, je crois, l'utilisation possible et automatique du prénom d'usage dès qu'il est demandé par l'étudiante ou l'étudiant.
Oui, tout à fait, oui.
Oui, c'est ça. Alors, donc, quand est-ce qu'on va commencer à voir les premières permanences et les premiers rendez-vous individuels? Est-ce que vous avez une idée?
Alors, les premiers rendez-vous individuels, ça commence assez bientôt, en fait, puisqu'il y en a déjà prévu un...
Le 19.
Voilà, le 19. Ça. Et les permanences, ce serait plutôt, en l'occurrence, vers mars, donc au mois de mars. Et on avait envisagé, en ce qui concerne la régularité de ces permanences, une par quinzaine, après, voilà, à partir du mois de mars. Voilà, c'est pas grave si au début, à personne. Oui. L'important, c'est de construire sa progression. Progressivement, quitte à ce qui est pas vraiment au début, mais ça va évoluer.
Ça va faire boule de neige.
Voilà,
c'est ça.
C'est ce qu'on espère en tout cas.
On va ouvrir les canaux, les réseaux, et puis commencer à communiquer sur tout ça. Et puis vous allez voir que très très vite, vous allez avoir du monde. C'est absolument. Alors, on rappelle aussi qu'à Quasar, il y a la team trans. Alors, s'il y a des jeunes trans qui viennent, comment ça va se passer? C'est-à-dire que vous allez les garder, vous allez les renvoyer vers la team trans ou vous allez faire un mixte? Comment est-ce que vous voyez les choses, Alex?
Alors, en fonction de là où elles en sont aussi, également de leur parcours, si elles pensent avoir le besoin d'aller communiquer sur des thématiques qui leur ressemblent avec la team trans, on les dirigera évidemment vers la team trans. Mmh. Et si c'est des personnes qui souhaitent faire partie du 15-25 et rejoindre, être entourées des personnes de leur âge pour également faire avancer les choses, eh bien, on leur dira de nous rejoindre.
Ben voilà, hein, ça ne souffre aucune difficulté. Et puis, les personnes peuvent naviguer, hein, je veux dire. Et alors, vous avez justement quelqu'un qui est de la team trans à vos côtés?
Oui, c'est ça, Nathan, qui est du coup dans les deux pôles, ce qui montre que ça n'empêche pas d'être uniquement centré dans un pôle. Et c'est ça aussi le but, c'est de pouvoir être... être dans plusieurs pôles en même temps,
ça permet de découvrir aussi, hein, parce qu'il y a aussi le pôle éducation-formation, et il y a peut-être des découvertes, des gens qui voudront pouvoir se... Une petite parenthèse, Alex, toi qui as assisté à l'Assemblée Générale, tu en as retenu quoi le 29 janvier dernier?
Moi, j'ai retenu déjà une grande diversification dans les personnes qui étaient qui étaient concernées et qui étaient présentes, en fait, et notamment beaucoup d'associations. J'ai senti beaucoup d'engagement. Et j'ai trouvé vraiment super intéressant.
Et toi, Katel?
Moi, c'est pareil. Je trouvais beaucoup une envie chez les personnes, par exemple, qui ne s'y connaissaient pas forcément, une envie de découvrir ce qu'elles appelaient les nouveaux termes, même si ce n'est pas nouveau, les nouveaux termes, et d'apprendre sur, justement, les transidentités. Et je trouvais ça, c'est quelque chose qui m'avait marqué et que je trouvais assez prometteur pour la suite.
Alors, on rappelle qu'à partir de mars, il y aura des permanences, les dates vont être bientôt communiquées. Qu'ensuite, il y a un mail de contact déjà pour celles et ceux qui voudraient vous contacter. C'est lequel?
Alors,
de mémoire, vas-y.
De mémoire, on va essayer.
Le piège.
Si ma mémoire fonctionne bien, 15-25.
ANS.
ANS, voilà.
@
Quasar.
C'est 15-6-25 ANS en @quasar.fr. Un grand merci à tous les deux d'être venus jusqu'au micro de Quasar en dire. C'est chez vous. Hein. Vous pourrez revenir très longuement. On pourra vous recevoir à nouveau. S'il y a une thématique, un besoin tout à fait particulier, ça sera vraiment, vraiment avec plaisir. On a donné le mail, on se dit à très vite et on vous embrasse et vous pouvez rester. Quasar en d'hier, c'est jusqu'à 21h et c'est aussi, figurez-vous, eh bien, musique. Il arrive, il est tout à fait normal, rassurez-vous. Eddy de Preto, bonne soirée, Quasar en d'hier, 101.5.
responsable, penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois sentir juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à jour. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans. Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars, ne sois qu'un minime détail, que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, ne donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon, faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal, je suis complètement malade. Si tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule et d'autres avis bien le refoulent. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, tellement malade.
Hier, un jeudi sur deux, vous y êtes. Vous êtes les bienvenus. L'actualité lesbienne, gay, bi, trans, dont nous partageons les nouvelles. Alors parfois, surtout les bonnes, et puis parfois les plus tristes, comme ce 12 janvier dernier, où la clinique que l'on appelle le 56 Dean Street informait de sa grande tristesse et d'être obligée d'annoncer le décès soudain d'un de ses collaborateurs et amis, David Stewart. Alors pourquoi est-ce que ce soir nous rendons hommage à David Stewart ? Eh bien c'est très simple, c'est un activiste londonien qui compte énormément sur la scène et l'activisme international en matière de santé, notamment parce qu'il est l'inventeur du terme chemsex. Et pour nous en parler et nous parler de la réalité de cette découverte et de la lutte qu'il menait à Londres, eh bien nous rejoignons au téléphone Stéphane Verne. Bonjour Stéphane.
Bonjour.
On vous accueille parce que vous l'avez connu quand vous étiez l'ancien responsable du spot Beaumarchais pour Aide. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est ce spot Beaumarchais, même si effectivement aujourd'hui vous n'en êtes plus le responsable attitré. Et pour nous introduire finalement à votre rencontre avec David Stewart, qui il était et finalement quelle est l'importance de tout ce qu'il a mis en place.
Très bien. Alors, merci de m'avoir invité ce soir. Donc, en mai 2016, je deviens responsable du spot Beaumarchais, qui est un centre de santé sexuelle qui cible particulièrement ce qu'on appelle, en terminologie, les HSH, les hommes ayant de la relation sexuelle avec d'autres hommes, pour faire cours des homosexuels et des bisexuels. Mmh. Donc, c'est un centre de santé sexuelle où on parle beaucoup de VIH, de dépistage, de PrEP, d'IST, etc. Et il y a la particularité, c'est qu'il est porté par l'association Aide. Donc, à la fois, on mélange le communautaire avec une approche médicalisée. Et c'est en ça qu'il est assez novateur. Donc en mai 2016, je deviens responsable du spot et je pars à Durban pour le congrès international sur le VIH-Sida en Afrique du Sud. Et là, je rencontre un activiste anglais et je lui parle un petit peu du phénomène du chemsex qui est en train d'arriver. On sent qu'à Paris, notamment, on a des remontées du terrain, des remontées des personnes qu'on accueille en disant que ça devient assez problématique.
Alors Stéphane, est-ce que vous pouvez expliquer pour ceux qui ne connaîtraient pas, qui nous écoutent, même si on en parle, le chemsex, c'est quoi ce terme que David Stewart a finalement inventé?
Très bien. Le chemsex, c'est la diminutive de chemical, pour chimique, et de sexe, pour sexe, évidemment. Et donc David l'a inventé en disant, voilà, c'est la consommation de produits psychoactifs, de drogue, dans un contexte spécifiquement sexuel et non festif. Ce n'est pas dans les clubs pour danser, c'est vraiment dans le contexte sexuel. On ne va pas se mentir, l'utilisation de produits psychoactifs en contexte sexuel chez les gays existe depuis toujours.
Oui.
Mais particulièrement la fin des années 2000-2010, sont arrivés des nouveaux produits, et notamment en France, les nouveaux produits de synthèse qu'on appelle les catinones. L'une des plus connues s'appelle la 3MMC. Donc, c'est des produits de synthèse qui sont assez faciles d'accès. On peut les acheter sur Internet, très peu cher, 10 à 20 euros le gramme, et qui sont délivrés directement à la maison. Donc cette accessibilité facile aux produits a fait que les produits ont été beaucoup plus utilisés par les gays, et donc le phénomène du chemsex s'est beaucoup développé. Ça a commencé en Angleterre. En Angleterre, il y avait un autre produit qui s'appelle la méthamphétamine, qui est plus connu sous le nom de Tina ou de Crystal Meth, donc il peut se fumer ou s'injecter. Et donc, il y a eu un premier phénomène de chemsex qui est arrivé à Londres notamment, et qui a été problématique, et il est arrivé après coup en France. Donc moi, 2016, je suis à Paris, l'été 2016, où je monte le spot. Et là, on sent qu'on a un été très compliqué en termes sanitaires. C'est-à-dire que moi, dans mes amis Facebook au sens large, c'est-à-dire que j'ai pas que des amis proches sur Facebook, j'ai des connaissances au travail, etc. Il y a 5 personnes de mes amis Facebook qui décèdent. 3 overdoses et 2 suicides.
Donc ça alerte quoi? Vraiment.
Là, ça alerte, on se dit, il se passe un truc, chez Aide, on commence à tirer un signal d'alarme, il faut qu'on fasse quelque chose. Et moi, je me dis, bon, ben, les Anglais, à ce niveau-là, ils ont 5 à 10 ans d'avance sur nous, je vais aller à Londres et je vais voir ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce qu'ils ont mis en place. Donc, je pars en mission en septembre, et l'activiste que j'avais rencontré à Durban, je le contacte, je lui dis, qui je dois voir? Il m'a dit, ben, s'il y a une personne que tu dois voir à Londres, c'est David Stewart. À l'époque, il était responsable du programme Wellbeing, du programme Bien-être à la clinique 56 Dean Street. Donc, il est vraiment au cœur de Soho. Et David, tu le rencontres et tu vas tout comprendre. Donc, je pars en septembre. Il m'a un rendez-vous avec David Stewart. Et donc, j'arrive un jour avec mon petit cartable. Mon humilité de militant, d'activiste français qui comprend pas trop ce que c'est que le chemsex. Et j'arrive à la clinique 56 Dean Street, on me dit d'attendre à l'accueil. Et là, cet homme immense, très grand, oui. Là, il faisait 1m95,
c'est ça,
oui. 2 mètres.
Tous ceux qui le décrivent donnent cette indication-là. Et puis avec ses lunettes, ses grandes lunettes qui lui mangeaient le visage.
Une poignée de main, il vous brisait la main.
Une ferme,
et puis surtout
oui.
Ce sourire, un sourire solaire. Et donc il m'accueille, une voix très douce. Et le feeling passe, mais en deux minutes. Je m'assois, je pose deux, trois questions, et là, il part, et boum, c'est parti. Il m'explique le chemsex, pourquoi, comment, comment c'est arrivé à Londres, qu'est-ce qu'il a fait. Il me parle un peu de son parcours à lui. David, c'est quelqu'un qui a eu un parcours très, très compliqué. Ses parents, c'est de notoriété publique, donc je ne brise aucune confidentialité. Des soucis entre son papa et sa maman, qui décède assez, il était assez jeune. À Londres, il est travailleur du sexe, il travaille du sexe et en plus il devient dealer. Il est arrêté pour ça, il fait de la prison, il en sort et là il se dit je vais changer ma vie, je vais aider ma communauté. Et donc il commence à aider et à mettre au cœur de ce qu'il faisait la communauté. C'est-à-dire qu'il a dit que la communauté c'est nous tous et c'est l'accompagnement entre pairs qui va nous aider à nous sortir de cette problématique qu'est le sexe.
C'est intéressant ce que vous dites, puisque juste auparavant, on recevait Catel et Alex, qui sont deux jeunes de Quasar, qui relancent le pôle 15-25, et on parlait justement de cette importance d'avoir des pairs, P-A-I-R-S, dans la vie, et de pouvoir les rencontrer. Et bien là, sur la santé, idem.
Tout à fait. Et David a toujours dit, voilà, les principes, c'est que si la communauté fait bloc, s'entraide, et si entre nous, David, il avait trois mots, alors j'ai traduit évidemment de l'anglais, mais c'était ces trois mots piliers. C'était bienveillance, altruisme et empathie. Et c'est pas on le sait aujourd'hui, tout le monde emploie ce mot bienveillance, il est un peu galvaudé, mais David, c'était la vraie bienveillance. C'est-à-dire que moi, je ne l'ai jamais entendu. On a été amis depuis 2016, puisqu'après, on va se rapprocher, il va beaucoup m'aider, on va devenir amis. Je ne l'ai jamais entendu dire de mal de qui que ce soit. Il était toujours à encourager. Moi, quand on se parlait beaucoup du projet du spot, ce que j'avais mis en place, je lui demandais conseil. Toujours, il m'encourageait, il me questionnait, il me disait, pourquoi tu as fait ça? Et pourquoi pas ça? Et qu'est-ce que tu penses de ça? Et toujours, en étant extrêmement en construisant ma confiance, il m'encourageait, il me disait ça c'est bien ce que tu as fait, mais tu te rends compte depuis 2-3 ans ce qui s'est passé, ce que vous avez fait. Et toujours là, donc grâce à David, moi j'ai monté avec un collègue une soirée qui s'appelle Chill Out Chemsex, qu'on a commencé en novembre 2016 quand je suis rentré de Londres. Donc c'est un groupe d'auto-support pour des garçons qui sont en difficulté avec le chemsex, qui avait lieu tous les mardis soirs au spot de 19h30 à 21h30. Et c'est devenu une soirée hebdomadaire qui existe encore. Et David m'a dit, mais tu es le seul en Europe à avoir fait ça. Il n'y a pas une autre soirée d'auto-support entre chemsexeurs hebdomadaire qui existe en Europe. Il m'a dit, et moi je réalisais pas, mais donc il avait cette capacité à valoriser, à encourager. Et c'était ça qui était formidable avec David. Et David, il a été plein d'idées.
Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que lui a organisé dans un club, sur une scène? C'est assez tout frappant, je trouve, parce que ça dit beaucoup de ce que sont les personnes, en fait.
Alors tout d'abord, il a créé le Forum Chemsex européen. Le premier a eu lieu à Londres en 2016. Ça a été le premier avec son comparse à l'époque, Ben Collins, de mettre ensemble dans une même pièce pendant une conférence tous les activistes chemsex d'Europe et discuter, échanger, échange entre pairs, régulation, partage d'expérience, et pour monter en compétences collectives avec des médecins, avec des psys, avec des psychiatres, avec des addictologues, c'est se mettre tous ensemble et avancer ensemble. Donc ça a été son idée à lui, et ce forum chemsex existe toujours. Ensuite, David a inventé une soirée qui s'appelle « Let's talk about gay sex and drugs ». Le principe, c'est un principe de cabaret. Il avait loué un bar à Londres qui s'appelait le Cuba, qui est en plein Soho. Et là, il y avait une scène et des garçons venaient pendant 5 minutes. Ils avaient, les Anglais appelaient ça un « open mic », c'est-à-dire un micro ouvert. Et pendant 5 minutes, ils pouvaient, dans un cadre de bienveillance, de non-jugement, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient sur leur vie. Ça pouvait être un poème, ça pouvait être une chanson, ça pouvait être un texte qu'ils avaient écrit, ça pouvait être une lecture, c'était ce qu'ils voulaient. Et ces garçons, pendant 5 minutes, parlaient de leurs problématiques avec le chemsex, avec leur homosexualité, avec la difficulté d'être séropositif, la difficulté d'être jugé, la difficulté d'être efféminé, la difficulté d'être noir, ou d'être passif, ou d'être asiatique, ou voilà, toutes ces difficultés-là, la difficulté avec les applications de rencontres qui peuvent être très violentes, avec la sérophobie, l'homophobie, et pendant, donc toutes les mois, il y avait une soirée comme ça où des garçons venaient, et pendant 5 minutes, racontaient. Et moi, donc, le jour où j'ai rencontré David, il m'a dit, je vais t'amener à une soirée, tu vas voir, je te dis rien, tu verras. Et je m'assois. Alors, j'avais le petit avantage, Stéphane, je me permets de dire que j'avais vécu 9 ans à Londres.
Oui.
Donc, mon anglais était je vais pas faire le malin, mais je parle couramment anglais. Voilà. Donc pour moi, c'était facile d'interagir. Donc je vais au Q-bar, je descends dans le basement, dans le sous-sol, je m'assois, et là, sans exagération, hein, je prends une claque émotionnelle de stupéfaction absolument incroyable. Pendant 2 heures, je m'assois et j'écoute ces garçons qui viennent sur scène, qui, avec une authenticité incroyable, avec une dureté, parfois raconter des choses. Certains racontent qu'ils se sont fait violer dans leur jeunesse. Certains racontent qu'ils ont fait une partouze de chemsex ou des fois deux, trois garçons les ont sodomisés alors qu'ils n'étaient pas consentants parce qu'ils avaient pris des produits. C'est des choses très, très fortes et toujours dans cette bienveillance. Et ça a créé cet esprit communautaire. C'est-à-dire que des garçons, pour la première fois, pouvaient venir sur scène, parler de leur problématique chemsex et en parler sans être jugé,
oui,
sans
fort,
avoir un mauvais regard.
C'est ça.
En parler en toute liberté. Et ça a complètement changé la donne à Londres. Et cette soirée a explosé. Et moi, les derniers temps, enfin, ils étaient obligés de refuser du monde.
Mais je comprends.
Et elle était victime de son succès. Ils ont été obligés après de l'arrêter parce que
COVID.
Le format c'était trop gros et le format ne correspondait plus.
Il nous reste une petite minute. Qu'est-ce qu'on peut dire de définitif sur David Stewart, Stéphane?
Il a été un pionnier.
Voilà.
C'était le phare au milieu de la nuit. C'est-à-dire que tous les activistes du monde, quand il y avait un souci, c'était aller voir David. Moi, je me rappelle, notre dernier groupe de travail, qui est un groupe de travail qu'il avait formé lui-même, nous étions 15 activistes de 15 pays différents, de 5 continents différents. C'était ça, David Stewart.
C'est fort.
La référence mondiale. Et il y a un héritage, et c'est à nous de faire vivre son héritage dans le monde entier, en France, dans tous les pays, pour que le chemsex ne soit plus problématique et accompagner le mieux possible nos frères gays qui ont des problématiques par rapport au chemsex et qu'on accompagne le mieux possible pour qu'ils s'en sortent.
Mais c'est un sujet que nous réaborderons parce qu'il est très, très frappant, très marquant à l'heure actuelle. Et la thématique du chemsex concerne aussi d'autres communautés que la communauté HSH aujourd'hui. En tout cas, un grand merci. Ça nous a fait plaisir de parler de David Stewart, que nous ne connaissions pas personnellement, mais on sent bien qu'il y a des personnalités fortes qui comptent dans le monde, même si on ne les connaît pas. Et c'est toujours très important de leur rendre hommage, même quand ils ont disparu et plusieurs semaines après. En tout cas, un grand, grand merci, Stéphane, de nous avoir consacré ces quelques minutes pour parler de Dave Stewart, et au plaisir, grand bien.
Merci, au plaisir, bonne
soirée. Au
revoir. Au revoir.
Allez, à mon avis, David Stewart aurait adoré Sissy Peniston. En même temps, on a les images de Priscilla, folle du désert. On est dans le thème jusqu'au cou. Très belle soirée. direct. Le temps de retrouver nos invités au téléphone. Et c'est fait, c'est dans la boîte et c'est maintenant. Vous voyez, après avoir parlé des jeunes, du pôle 15-25 ans, du chemsex, vraiment des thématiques très éclectiques ce soir, puisque nous allons aborder maintenant les questions de filiation avec une invitée. C'est Héloïne Fouillou qui est au téléphone. Bonsoir Héloïne.
Bonsoir.
Alors Héloïne, on va dire que toi tu représentes les Enfants d'Arc-en-Ciel. C'est une association qui s'occupe de d'homoparentalité, qui a les compétences pour en parler. Est-ce que tu peux nous présenter les Enfants d'Arc-en-Ciel, depuis quand ça existe, où est-ce que ça existe et est-ce que vous faites un petit peu finalement, beaucoup même?
Oui, beaucoup. Alors, les Enfants d'Arc-en-Ciel, c'est une association de familles LGBT parentales,
oui,
qui a été créée en 2007 et qui est issue du forum du même nom.
Oui.
Alors, où on est, en fait, on est une association nationale, donc on est partout en France.
Oui.
Et on accompagne essentiellement des couples de femmes dans leur projet de parentalité et dans leur vie parentale, avec les questions juridiques qui se profile et puis, voilà. Et puis évidemment aussi tout ce qui est pratique.
Les aider, trouver des solutions, les aiguiller juridiquement et leur donner les bons conseils, surtout qu'il y a plein de pièges à éviter. On va y revenir dans un instant, mais l'actualité a été particulièrement agitée ces derniers jours ou cette dernière semaine avec au moins trois grandes nouvelles. C'est l'affaire de Toulouse où une femme trans a pu être reconnue comme la mère de l'enfant du couple. C'est une thématique que vous avez à connaître, vous, dans les différents cas que vous connaissiez, ou c'est vraiment une spécificité à Toulouse?
Alors, c'est un cas qu'on a déjà rencontré, même si on n'est pas en contact avec cette famille-là en particulier.
Oui.
Mais effectivement, enfin, c'est de toute façon une grande avancée pour les
personnes
pour
trans.
Les parents trans.
Voilà, c'est ça. La transparentalité prend une tournure vraiment, là pour le coup, vraiment intéressante. Et autre nouveauté sur la loi qui vient d'être votée concernant l'adoption, qui finalement ne conditionne plus l'adoption au mariage. Ça, c'est un point sur lequel vous devez particulièrement être satisfaite et satisfait.
Alors, fait,
mais
oui.
Avec des bémols quand même.
Avec des bémols quand même. Alors, le fait que ça soit plus conditionné au mariage, ça, c'est, y a pas de bémol, hein, c'est un grand oui.
Oui.
Évidemment, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que on ne devrait pas être obligé de se marier pour pouvoir adopter ses propres enfants, même si on ne devrait pas être obligé d'adopter ses propres enfants déjà pour commencer. Mais dans tous les cas, le fait de se marier ou non devrait appartenir au couple par rapport à ses propres envies matrimoniales, ses envies de couple, et pas être obligatoire pour pouvoir protéger ses enfants.
D'accord.
Donc ça, évidemment, c'est une avancée très importante pour les couples, pour justement cette liberté de se marier ou non.
Et puis
le bémol, il est plutôt sur un autre point. Qui lui était très attendu aussi et qui concerne la possibilité transitoire, hein, c'est vraiment une mesure qui va durer 3 ans, pour, dans certains cas, que dans le cas d'une séparation qui serait intervenue avant l'adoption, et dans le cas où la mère légale s'opposerait à l'adoption, enfin s'opposerait à la filiation, tout simplement,
oui.
Parce que sinon,
oui.
Dans ce cadre-là, puisque c'est réservé. Le bémol, c'est que ce sera uniquement pour les couples qui sont passés par une PMA.
Oui.
Et du coup, l'avantage pour ces couples-là, enfin pour ces couples, ces mères-là qui du coup, n'ont pas de droit sur leurs enfants et dont l'ex-compagne s'oppose à la filiation, c'est que le juge pourra quand même prononcer l'adoption s'il estime que le refus est abusif.
Voilà, et que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime.
Et que c'est l'intérêt de l'enfant.
On entend beaucoup.
Le bémol, il est sur le fait que c'est effectivement uniquement pour les couples qui auront fait une PMA.
Oui.
Les couples qui se seront séparés sans avoir fait d'adoption alors que leur enfant est né suite à une insémination artisanale.
Voilà.
Ou sont passés par Cryos, ne pourront pas avoir droit à ça.
D'accord. Donc ça, c'est vraiment problématique.
Ça, c'est très problématique, oui. C'est vraiment... une différence faite par rapport au mode de conception de l'enfant, que l'enfant ait été conçu par PMA ou que l'enfant ait été conçu par insémination artisanale. Ça ne change rien au fait que son intérêt de pouvoir avoir sa filiation vis-à-vis de ses deux parents.
Oui, si l'intérêt de l'enfant dans un cas est bien celle qu'on vient de décrire, pourquoi ça ne serait pas le cas dans un autre cas de conception ? L'enfant, lui, il n'a rien à voir avec le mode de conception. C'est bien ça le problème.
C'est bien ça le problème.
Il y a une autre avancée qui a été décidée par un juge aux affaires familiales, c'est le partage de l'autorité parentale par quatre personnes d'un petit bout, je ne sais plus si c'est un garçon ou une fille, mais peu importe. Et ça aussi, c'est une avancée, mais qui ne concerne pas la filiation pour le coup, que
voilà,
l'autorité parentale.
Voilà. Alors c'est une avancée, évidemment, parce que ça simplifie le quotidien.
Oui. Très nettement.
C'est une protection quand même importante pour les enfants, hein, de pouvoir avoir l'autorité, enfin que les quatre parents puissent avoir l'autorité parentale sur cet enfant, ne serait-ce que pour des questions médicales dans la vie
tous
de
les jours.
Mais cela dit, enfin c'est pas une filiation du tout.
Voilà. Hein,
c'est justement uniquement l'autorité parentale et qui du coup.
Oui, c'est pratique et matériel.
Prendra fin aux 18 ans de l'enfant.
C'est
et,
ça.
Et ne change rien par rapport à la question de la succession, par rapport à tout ça.
Voilà. Mais aux adultes de s'entendre, mais c'est déjà une grande avancée. Alors, si on revient sur la filiation et en lien avec la PMA, il y a quand même un certain nombre de gros problèmes qui, malgré le vote de la loi très récemment en 2021, concernant la PMA. Est-ce que toi, Elohim Fouillou, tu pourrais, au nom des enfants d'arc-en-ciel, nous dresser un peu le bilan des gros pièges à éviter et des grosses problématiques sur lesquelles, inévitablement, il va bien falloir continuer à revenir et en tout cas les gommer, les améliorer.
Alors absolument, ce serait assez urgent et important. Et on ne peut que regretter qu'il n'y ait pas eu davantage d'anticipation de ces problèmes. On a vraiment l'impression que cette loi a été mal préparée. Puisque tout simplement, en fait, la loi pose problème sur plusieurs plans. Le premier plan, c'est que on l'a appelé PMA pour toutes. Et ça, comme pour le mariage pour tous, ça donne l'impression que tout le monde a les mêmes droits.
Et c'est pas le cas.
Et c'est pas le cas.
Mmh. Oui, c'est une terminologie comme ça marquante et communicante, mais ce n'est en
voilà.
aucun cas.
Voilà, mais tout comme pour le mariage pour tous, les mêmes droits.
Ça n'a jamais été pour
les
tous,
mêmes droits.
Voilà, puisqu'il y a plein d'interdits du mariage. Enfin bref, voilà.
Absolument. Ouais. Et donc là, en fait, alors effectivement, la PMA en France est ouverte aux couples de femmes. Ça, c'est pour le côté positif. Le côté négatif, bon, en dehors du fait. On le sait, de toute façon, ça ne va pas changer radicalement le fait qu'une majorité de couples de femmes vont continuer à l'étranger, tout simplement parce que les délais sont extrêmement longs en France.
Alors combien ? Combien est-ce qu'il faut compter ?
Faut compter plus d'un an pour quand on commence à se tourner vers un SECOS pour pouvoir espérer commencer... un parcours de PMA.
Faute de quoi ?
Il faut compter déjà plusieurs mois pour avoir un rendez-vous.
D'accord. Et faute de quoi ?
Il y a encore des endroits où c'est compliqué d'avoir un rendez-vous.
Faute de disponibilité
faute de donneurs.
Faute
de disponibilité des équipes.
D'accord. Oui, déjà pour commencer.
Les ECOS sont en sous-effectif.
Oui.
Et rien que la prise de rendez-vous pose problème.
Oui.
Il y a tellement de demandes de rendez-vous ils ont déjà du mal à gérer la prise de rendez-vous. Ensuite, une fois que les rendez-vous sont fixés, faut les honorer. Et c'est fait beaucoup de monde qui a besoin d'avoir un rendez-vous. Et il n'y a pas non plus un nombre de donneurs faramineux. C'est une problématique qu'il y avait avant d'ouvrir la PMA aux couples de femmes.
Hein, qui avait été soulevée d'ailleurs dans les débats.
Tout à fait. Maintenant, le problème initial qui s'est posé là, ce n'est pas la question du nombre de donneurs, mais la question de simplement du problème des effectifs.
Mmh. On entend
mais
bien.
Ça, comme partout dans les hôpitaux en France, on peut dire qu'il y a un problème.
Et un autre problème de la loi, si j'ai bien compris, c'est l'entrée en vigueur de la loi et ce décalage absolument incompréhensible, d'où le fait que tu évoques, Elohim Fouillou, la non-préparation par le gouvernement, c'est-à-dire que les décrets d'application ont mis beaucoup de temps à arriver.
Alors, les décrets d'application ont effectivement mis beaucoup de temps à arriver, puisque la loi a été votée le 2 août 2021, et on n'a rien eu avant la fin du mois de septembre. C'est-à-dire qu'il y a eu une circulaire ministérielle qui est sortie le 21 septembre. Les décrets ne sont sortis que le 28 septembre. Or, la loi était applicable à compter du 3 août.
Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé?
Et pendant ce temps, le problème, ce n'est pas par rapport à la possibilité des couples d'avoir accès à la PMA. Effectivement, pendant tout ce temps-là, les couples n'ont pas réussi à obtenir des rendez-vous pour la plupart d'entre eux dans les ECOS. Mais ça, à la limite, c'est pas trop le problème. Le problème, c'est par rapport à la filiation. Puisque l'intérêt de cette loi, c'est pas simplement l'ouverture de la PMA, c'est la possibilité pour les couples de femmes d'être reconnus comme parents, l'une comme l'autre, dès la naissance de leur enfant.
C'est bien ça, oui.
Avec la procédure de reconnaissance conjointe anticipée.
Oui.
Le problème de la reconnaissance conjointe anticipée, c'est que, en l'entendant comme ça, on se dit reconnaissance anticipée, ça existait déjà pour les couples hétéros avant, une reconnaissance qui se fait avant la naissance.
Oui. Mais ça à quel moment et à quel
logique.
Moment d'avant.
Mais là, c'est pas le cas.
D'accord.
Le problème, c'est que là, c'est pas avant la naissance, c'est avant la conception de l'enfant. Cette reconnaissance doit être signée chez le notaire, en même temps que le consentement à la PMA. Et ça doit se faire avant la conception de l'enfant. Ça ne peut plus se faire après.
Et si c'est fait
et
après
ça, mais en fait, elle est dans ce cas-là, la filiation serait frauduleuse.
D'accord.
Et pourrait être annulée par la suite en cas de contentieux.
C'est incroyable ça quand même.
Et on se retrouve, depuis le mois d'août, avec des centaines de femmes qui nous amènent quotidiennement. On a des mails, on a des appels quotidiennement nous disant on a fait une PMA à l'étranger, après le 2 août. On attend un enfant. On a voulu aller chez le notaire pour faire la reconnaissance. Et là, on découvre que c'est pas possible.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, c'est la panique. Le ciel leur tombe sur la tête.
Donc la seule chance, c'est que le côté frauduleux, non pas volontaire mais involontaire, ne soit jamais pointé et qu'il ne soit jamais contesté cette réalité de filiation. Mais point d'interrogation.
Alors, oui, mais ça, on peut pas compter sur le fait qu'il n'y aura jamais de conflit au sein d'un couple, qu'il n'y aura jamais de problème.
Oui.
La filiation, elle est là justement pour protéger l'enfant en cas de problème.
C'est ça. Or là, ce serait la première chose à attaquer,
ça donne une ouverture pour contester la filiation et la retirer après coup. Ça veut dire que ses parents vivraient pendant plusieurs années, après on pourrait compter sur la possession d'État, mais ça voudrait dire que pendant plusieurs années, les parents, les enfants vont vivre avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête en se disant, il faut surtout pas qu'il y ait un problème.
Oui. Ça va être dramatique cette affaire encore.
Mais c'est dramatique. Et tout ça parce que il n'y a pas eu la communication nécessaire pour que ça soit compris en tant que tel. Mmh. D'autant que il y a la procédure de reconnaissance conjointe a posteriori qui a été créée en même temps, qui elle s'applique pour les enfants qui ont été conçus par PMA à l'étranger avant le 2 août.
Oui.
Et qui, pour une durée de 3 ans, donc jusqu'au 2 août 2024...
Et pourquoi 3 ans?
C'est arbitraire.
D'accord.
Ça a été décidé comme ça, c'est 3 ans.
Mmh.
Et alors pourquoi pas 4, pourquoi pas 5, on ne sait pas, c'est comme ça, c'est 3 ans.
Mmh.
Donc, jusqu'au 2 août 2024, les parents sociaux qui auront fait une PMA à l'étranger pourront faire une reconnaissance conjointe a posteriori, qui, elle, devra être validée par le procureur de la République, qui va vérifier qu'il s'agit bien d'une PMA à l'étranger et que c'était bien un projet parental commun. Et ces couples, ces parents-là pourront donc faire établir leur filiation de cette façon-là.
D'accord.
On aurait pu imaginer que pendant un certain temps, les familles puissent faire soit la reconnaissance conjointe anticipée en le faisant avant la conception, soit après la conception en faisant une reconnaissance conjointe a posteriori.
Mmh. Ah oui.
Mais c'est pas possible.
Voilà. On le voit bien, hein, c'est un sujet tellement prenant, tellement important et passionnant que le temps tourne. On va être obligé de se séparer, Héloïne. Juste comme grand merci d'abord d'avoir été disponible et nous parler de cette réalité-là. Moi, je pense depuis longtemps qu'il va falloir qu'on fasse un temps à Angers, annoncer longtemps à l'avance pour rencontrer les couples, discuter de cette réalité. Parce que même pour les LGBT en général, ça serait bien que cette information-là puisse être connue et partagée. En tout cas, un très très grand merci Héloïne, très belle soirée.
Merci Stéphane.
À toi. Bonne et soirée. Puis la bise aux enfants d'arc-en-ciel, d'accord. Au revoir. Au revoir. Allez, juste avant de refermer les pages de ce Quasar on the Air, nous ouvrons celle de l'agenda. Je vous le rappelle très brièvement, les permanences dès le 19 et le 26 février à 17h jusqu'à 19h, 15 rue de Jérusalem. Mardi 15 février, 18h, c'est la réunion du conseil d'administration de Quasar. Le mercredi 16 février à 18h, c'est la réunion du groupe du pôle droit des étrangers pour discuter de la réalité et du travail à effectuer. Et puis un gros programme chargé le samedi 19 février. Alors à 14h, c'est la réunion de travail du pôle 15-25 ans. C'est bien ça, hein, tu me le confirmes, Katel.
C'est bien ça.
Voilà, elle est sage, elle suit, elle confirme. À 15h, c'est Transat, le groupe de parole pour les personnes transgenres, agenres et non-binaires et par elles. À 18h, clin d'œil à l'AG de contact dans leurs locaux. Et puis ce samedi 19 février, ce sera aussi à 19h le loto à l'entre-deux animé par Ladies Gust au bénéfice de Quasar. Si vous voulez aller jouer, boire un coup, rencontrer du monde, l'entre-deux le samedi 19, 19h. Et puis très vite, le jeudi 24 février, nouveau numéro de Quasar on the Air à 20h. Et puis le 26, ça sera un après-midi spécial février, donc 26 février à 14h, l'après-midi droit des étrangers et des étrangères avec la diffusion du fameux documentaire L'enfant de malheur. Ben voilà, le temps passe très 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 vite, déjà l'heure de nous quitter. Katel, je t'embrasse.
Moi aussi.
Et puis passe une bonne soirée. Ça va, ça n'a pas été trop intimidant?
Ça va, pour une première.
Ah, c'est ça va.
La voix cassée, toujours là, mais on s'en est sorti.
C'est parfait, tu as été parfaite. On vous souhaite une très 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 bonne semaine, ou une quinzaine, et puis nous, on se retrouve très exactement, ben justement, dans 15 jours, et ce sera l'occasion de revenir sur d'autres thèmes, rencontrer de nouvelles personnes, et de toujours être en lien. Vous vous souvenez que Quasar, c'est 15 rue de Jérusalem, le site quasar.fr. Très belle soirée et on est là quand il y a besoin. Ciao, ciao.
Radio G 101.5 FM. Yes.